I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut Rokaya.
Salut Grace.
Salut les auditorices.
Vous trouverez la suite de Kif Taras et les nouveaux épisodes à écouter sur votre plateforme habituelle de podcast.
Faites simplement une nouvelle recherche avec le titre Kif Taras chez Pseudo Radio et abonnez-vous à ce fil.
Bien sûr, les quatre premières saisons des épisodes de Kif Taras resteront toujours disponibles chez Binge Audio.
Merci pour votre écoute précieuse
et à bientôt.
Bonjour Rokaya.
Bonjour Grace.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kif Taras, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales.
Ici, on parle d'arabe, d'asiatique, de blanc, de rom, de noir et tout ça sans complexe. Et aujourd'hui, on va parler des intersections qui existent entre l'orientation sexuelle et les questions raciales. Alors, dans un précédent épisode de Kif Taras, nous avons évoqué la fétichisation des corps non blancs dans les rapports sentimentaux et amoureux. Pour ce numéro, nous étions focalisés sur les rapports hétéronormés cisgenres. Alors, le cisgenre, c'est un type d'identité de genre où le genre ressenti d'une personne correspond à son sexe biologique assigné à la naissance. Nous avons aujourd'hui décidé d'interroger les appartenances multiples. Comme nous l'avons déjà dit, être arabe, asiatique, noir ou rom, c'est pas facile tous les jours. Mais comment ça se passe quand on est en plus LGBTQIA ? LGBTQIA, c'est l'acronyme de lesbienne, gay, bi, trans, queer, intersexué ou asexuel.
Et aujourd'hui, pour en parler avec nous, nous avons invité Gabi. Salut Gabi !
Bonjour !
Gabi, tu es un homme queer et noir, et tu es là aujourd'hui pour témoigner de tes expériences. Merci d'avoir accepté de nous rejoindre.
Merci à vous pour l'invitation.
Merci beaucoup Gabi. Alors dans Kif Taras, nous avons un rituel, nous demandons à toutes les personnes qui acceptent de se joindre à nous, de se situer sur le plan racial pour permettre à nos auditrices et à nos auditeurs de savoir d'où elles parlent. Par exemple, Grace est asiatique et je suis noire. J'ai envie d'ajouter ici, comme c'est notre thème du jour, que nous sommes deux femmes cisgenres et hétérosexuelles. Et toi, Gabi, comment tu te définirais ?
Alors, du coup, comme Grace l'a dit, comme noir queer, et donc voilà, et dans la diaspora, comme je vis en Europe, donc dans la diaspora afro qui vit en Europe et qui est aussi queer, voilà.
Et est-ce que tu as toujours su, toi, que t'étais noir et queer ? Comment ça s'est passé pour...
Oui, je pense que c'est dès l'enfance, on va dire, par certaines expériences sociales. C'est le mot que je vais mettre aujourd'hui, mais à l'époque, j'aurais pas mis ce mot-là. Mais disons que c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les expériences de racialisation, que tu... dès le plus jeune âge. Et sur la queerness aussi, pareil, c'est des mots qui viennent après, quand tu grandis, mais tu les as pas quand t'es jeune. Mais en tout cas, le fait de se sentir différent sur ces deux plans-là, en tout cas, c'est clair que ça, c'est j'ai grandi avec, oui.
T'as des anecdotes que tu as en tête où ça s'est manifesté, où t'as vraiment une prise de conscience, ou que t'as compris de manière un peu incidente ce que ça signifiait ?
Je pense que des choses très simples comme à la maternelle, ou je sais pas, moi, t'as la maîtresse qui demande... qui dit les filles d'un côté, les garçons de l'autre, et tu vois, moi, je... je disais de quoi elle parle. Enfin, tu sais, mais c'est rigolo parce qu'à l'époque, ça me paraissait, c'est elle qui me paraissait bizarre avec son, il faut se mettre d'un côté ou d'un autre pour, ou bien même les danses aux primaires, ce genre de choses. Moi, ça m'a jamais paru forcément hyper évident quand on disait qu'il fallait, les garçons devaient ranger tel truc ou bien il faut amener les, je sais pas, dans les fêtes, les garçons amènent une boisson, les filles amènent une tarte. Bon, moi, j'amène les deux parce que je...
c'est un bon invité en fait.
Oui, non, voilà, c'est plutôt ce genre de choses où moi et comme je disais, c'est des mots que tu mets après, mais en tout cas, ça paraissait évident que pour moi, j'ai l'impression que c'est eux qui avaient tous un problème plutôt. Donc voilà.
Et par rapport à ta couleur de peau ?
Ça, je pense que c'est comme j'étais dans une famille qui est un peu pas militante, hein, mais juste qui aime beaucoup sa culture, qui aime beaucoup. Les films noirs américains, ça c'était quelque chose qu'on regardait beaucoup chez moi. Donc c'est vrai que rien que pour ça, je dirais que, en tout cas, j'avais conscience que quand il y avait des noirs américains à la télé, ça nous concernait aussi un peu. Donc
Alors il y a un concept qu'on n'a pas encore explicitement abordé ici, c'est celui de l'intersectionnalité. C'est un concept universitaire créé par l'américaine Kimberly Crenshaw. Il s'agit d'appréhender en fait l'expérience de certaines personnes qui, par leur appartenance multiple à différents groupes minorés, se retrouvent à l'intersection des oppressions. Par exemple, en tant que femme arabe, femme asiatique ou femme noire, on peut subir à la fois le sexisme et le racisme. Et la conjonction des deux produit un effet différent qui n'est pas nécessairement une simple addition. Toi, Gabi, quelle approche tu as de cette notion ?
Disons que c'est un terme qu'on entend un peu de plus en plus, mais moi j'ai surtout l'impression que ce qu'il faut comprendre, c'est plutôt... Comment dans la vie de tous les jours, tes expériences sociales vont te discriminer dans tel ou tel aspect. Moi, j'ai pas l'impression que l'orientation sexuelle, c'est ça qui me discrimine en premier lieu, que ça va plutôt être d'abord le fait d'être perçu comme noir dans l'espace public. Mais ça, je pense que c'est parce que j'ai pas un look qui est visible. Et ça, je pense que si on interroge, j'ai pas 5 hommes noirs gays et queer, je pense qu'on pourra avoir des réponses différentes sur leur vécu de l'homophobie et du racisme en fonction de ce à quoi ils ont l'air. Et je pense que du coup, ça donne des résultats assez différents. Si on trouve que t'as l'air masculin, que t'es en survêtement, comme moi j'aime beaucoup par exemple, du coup t'es vu comme noir, t'es noir, t'es noir, t'es noir, et du coup tu vas pas être d'emblée perçu comme homo. Et il y a aussi tout ce qui est question des CV, etc. C'est que par exemple on connaît pas ton orientation sexuelle par ton CV, mais on connaît ton nom ou ton adresse quand le nom des fois il ne dit pas. Par exemple, que tu as un nom à consonance subsaharienne, par exemple, bah juste le fait de... On voit le quartier, ce genre de choses, donc on peut te... Du coup, l'orientation sexuelle, elle va peut-être se voir plus. C'est plus la question de comment tu négocies, à quel moment tu la montres ou pas. Ben, quand tu as un travail et que les gens te demandent tout le temps, mais les gens parlent de leur mari, de leur femme, de leurs enfants. Et c'est vrai que quand tu dépasses la trentaine et dans le milieu professionnel, les gens t'entendent jamais parler de ta vie privée. Il y a toujours des questions genre, mais pourquoi lui, il parle pas de ça? Donc, je pense que, ouais, il y a des gens comme ça où c'est plutôt, les gens vont pas se poser la question d'emblée, c'est après. Ça va venir. Et alors que je pense que d'autres personnes, j'ai des souvenirs de camarades d'école qui, eux, par exemple, c'est dans la cour de récré, on trouvait qu'ils faisaient trop comme des filles, ce genre de choses. Et eux, je pense que c'est des gens qui peut-être diraient que l'homophobie a eu des impacts sur leur parcours et ils se reconnaîtraient peut-être pas dans ma façon de parler de cette intersection-là. Donc je pense que c'est... Ça dépend vraiment de comment tu te présentes.
Du coup, tu sais, quand on parle d'intersectionnalité, on a tendance à penser que les discriminations s'additionnent. Et toi, ce que tu dis, c'est que le fait d'être noir prime sur le fait que tu sois queer, par exemple. Comment tu penses que, malgré tout, ces deux appartenances interagissent ? Est-ce que qu'est-ce qui est avantageux, qu'est-ce qui est désavantageux ? Et aussi bien vis-à-vis, parce que tu vois, t'as du racisme du côté de la communauté dominante sur le point de vue racial, mais tu peux aussi expérimenter de l'homophobie chez les noirs. Enfin, comment...
J'ai l'impression, mais après faudrait voir, mais que par exemple quand t'es noir homo, noir gay, noir queer, et que t'as pas forcément l'air de l'être, que l'homophobie de la société va moins t'atteindre, mais que c'est plus l'homophobie dans la communauté noire, et mais pas forcément que tu vas ressentir, mais qui peut-être va t'empêcher de dire certaines choses, et du coup... C'est une homophobie que tu vis un peu par le refoulement, parce qu'en fait c'est pas des choses que les gens vont savoir, mais c'est tout ce que tu vas t'empêcher de faire, comment tu vas mentir ou esquiver en fait. Et du coup je pense que le coup, peut-être pour certaines personnes qui sont pas visibles comme telles, le coup il va être psychologique, c'est-à-dire que il faudra réussir à vivre. Surtout si t'habites, tu vois, nous on est en région parisienne, on se parle comme ça, on est dans une ville dans laquelle vous parliez tout à l'heure des applis. C'est pas la même chose que quand tu vis ailleurs ou de toutes les façons t'as une vie plus confinée, tout ça. Là quand t'es à Paris, surtout quand tu grandis, tu dépasses le périph ou t'as fini tes études, tu commences à bosser, t'as un salaire, t'as envie d'avoir accès à, comme tout le monde, à la consommation. Et si t'es gay, ben tu voudras aller dans les lieux gays, etc. Et du coup je pense que le coût il est quand même énorme lorsque il faut tout le temps esquiver, changer sa vie. Et puis si tu rencontres quelqu'un, est-ce qu'il faut dire que c'est un coloc, est-ce qu'il faut dire que... Je pense que le coût quand t'es visiblement gay, parce que les gens vont t'insulter d'efféminer, tout ça. Ça vient directement sur toi, mais quand tu ne l'es pas, c'est l'art de l'esquive. Et je pense que l'art de l'esquive, c'est c'est quand même, il y a un coût. Après, peut-être qu'il y en a qui le vivent bien, parce que peut-être que, par exemple, ils n'ont pas spécialement de projet de couple. Je pense aussi que ça change. Si tu as envie d'avoir un projet de couple, c'est là que ça se coince. Moi, je connais des gens qui disent depuis longtemps qu'ils s'en fichent, leur vie sexuelle, c'est la leur, et qu'ils n'ont pas besoin de dire. Ils ne se reconnaissent pas forcément dans le fait de se dire homo, mais que tout change à partir du moment où ils rencontrent quelqu'un qu'il faut habiter ensemble. Tu peux esquiver... Pardon d'être vulgaire, mais tu peux esquiver tes plans cul, mais tu peux pas esquiver une personne avec qui tu veux habiter.
Ouais, c'est un peu plus difficile.
Le pire, c'est si s'il y a des projets d'enfants, c'est impossible à masquer. Donc, je pense que tout se complique dès que socialement ta vie commence à un peu être organisée derrière. Du coup, c'est pour ça que c'est pas vraiment une question de sexualité. Un homme marié peut avoir des amants hommes. Un homme marié à une femme, si ça se sait pas, ben, il peut vivre sa vie. C'est dès que t'organises ta vie en fonction de ça, ça devient l'enfer, en fait.
Est-ce qu'on peut faire un point terminologie quand tu dis un homme gay ou un homme queer? Moi, par exemple, je connais pas du tout cette terminologie et j'ai l'impression que c'est la même chose, alors que clairement non. Est-ce que tu peux nous dire?
Alors, je pense qu'il y a des gens qui les utilisent comme des synonymes, mais j'ai l'impression que queer, c'est peut-être plus queer, c'est le mot qui est utilisé aujourd'hui par les plus jeunes générations, et que peut-être que les hommes d'un peu plus de 40 ans disent gay, les plus jeunes vont dire queer, mais aussi peut-être parce que queer dedans, ça inclut des personnes qui, par exemple, sont binaires, ou qui sont trans, ou que, en gros, queer, c'est peut-être le fait que ça inclut un peu plus de gens, alors que gay, mais il y a aussi une différence de génération, je pense qu'on n'utilise pas les mêmes termes dans le milieu en fonction de la génération aussi.
Et queer, ça peut être aussi masculin et féminin, c'est-à-dire qu'il y a des femmes queer, ça, on dit aussi, alors que...
Bah, je pense que gay, c'est peut-être l'équivalent, c'était lesbienne, ouais. et que aujourd'hui, peut-être, les plus jeunes générations disent plus queer.
Et moi, j'avais envie qu'on parle des représentations, donc des personnes LGBTQIA et racisées, voir quels sont les clichés dont souffrent ces personnes-là. Nous, on a parlé de beaucoup de fétichisation des femmes quand on a abordé la question avec Faiza Ghen dans un épisode précédent.
Ouais, dans les rapports hétérosexuels.
Et du coup, alors j'imagine qu'il y a aussi des clichés qui sont associés à l'homme noir, queer. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as pu vivre?
Bah, disons que c'est différent, ça dépend de quel milieu on parle. Parce que si c'est le milieu gay, par exemple, du coup, tout ce qui est la rencontre, c'est vrai que si tu es noir et que tu n'es pas hyper féminin, mais que tu es plutôt, on va dire, standard dans le style vestimentaire, tu es associé direct à t'es actif sexuellement, je parle. Ça veut dire, genre, forcément, tu es la personne qui est active, etc. Mais il y a l'idée aussi, mais ça, c'est pour les hétéros comme les homos, je pense, hein, l'idée du sexe surdimensionné de l'homme noir.
Ouais.
Et il y a des échelles, en gros, de certains hommes sont vus, bon, c'est pas étonnant, les blancs sont vus comme un peu standard, ni plus ni moins.
La norme, quoi.
Voilà, les arabes et les noirs sont vus plus comme actifs, les hommes asiatiques vont être plus vus comme efféminés, et du coup si c'est des sites de rencontres plutôt drague sans lendemain, ça va être à fond sur les noirs et les arabes parce que c'est supposément les partenaires sexuels qui sont mieux et pas les asiatiques, etc.
Ouais.
Mais j'ai l'impression que ça change quand on parle plus mariage ou couple ou... Peut-être, je sais pas si ça s'inverse, mais je pense que ceux qui sont vus comme les partenaires sexuels sont moins vus comme les partenaires à long terme. Il y a un peu un truc de, si t'as la vingtaine, t'as la trentaine, c'est bien. Mais après, si la personne veut se poser, c'est... Du coup, le milieu, il est assez discriminant.
Du coup, c'est, en fait, t'as des gens qui sont perçus comme des expériences temporaires.
Oui, voilà le mot, voilà, c'est ça.
Et d'autres qui sont envisagés comme des partenaires de long terme. En fait, comme des équivalents, c'est-à-dire qu'il y a aussi peut-être une identification qui est plus forte.
Et je pense aussi que c'est dû parce que comme les gens s'imaginent que les familles noires sont plus homophobes, du coup, ils n'ont pas envie de se mettre en couple avec un noir, je pense. Parce que je pense qu'il y a l'idée que si on se met avec un noir, sa famille sera plus homophobe. Alors en plus, si c'est quelqu'un pour qui la religion est importante, alors il y a l'idée que ce sera forcément pire. Et puis il y a l'idée que si tu te mets en couple avec quelqu'un, faut absolument... c'est comme s'il fallait venir avec un drapeau dans ta famille ensuite. Et que sinon, ça voudrait dire que tu n'aimes pas l'autre personne, en fait. Il n'y a pas l'idée que... Après, je disais tout à l'heure, l'esquive, c'est fatigant. Donc je peux comprendre que les gens, ils veulent pas... Mais bon... Ça dépend des personnes.
Moi, j'ai l'impression que les clichés sont les mêmes. C'est-à-dire que, par exemple, les Noirs, ils ont un gros sexe. Les Asiatiques, ils ont des attributs sexuels plus petits. Mais que du coup, du fait du genre, On est plus désirable ou moins désirable en fonction de notre genre. C'est-à-dire que les hommes noirs, comme tu peux le dire, ils sont plébiscités parce qu'ils sont censés être actifs sexuellement et leurs attributs sexuels sont plus gros, donc plus désirables. Et la femme noire, comme on l'a dit la dernière fois, c'est que du coup, elle est moins plébiscitée parce qu'elle prend trop de place dans une relation, que ce soit sexuelle ou dans une relation. Et à l'inverse, les femmes asiatiques qui sont plébiscitées parce qu'elles sont soumises, qu'elles sont vues comme soumises, à l'inverse, l'homme asiatique, dans les relations homosexuelles, il pourrait être moins désirable parce que on se dit, alors moi j'ai regardé les sites de rencontres pour les hommes asiatiques, notamment aux États-Unis, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui témoignent. Ils utilisent des termes comme « no Asians ». Donc en fait, c'est placardé. En fait, vous avez un compte, c'est sur Grindr, donc il y a un site, une app très connue de rencontres pour les personnes homosexuelles. Donc ils disent tout de suite « no Asians »,« no femmes », donc ça veut dire « pas efféminé ». Et quand tu es asiatique,
par défaut,
t'es efféminé. Voilà. En français, ça pourrait être folle ou être féminin ou voilà. Ils disent même, je suis pas raciste, c'est juste une préférence.
Bien sûr. Qui n'a absolument aucun lien avec les préjugés.
Il y a la version française sur les sites comme Gayvox, tout ça, c'est écrit, souvent les gens mettent nos Asiates. Il y a la version française,
Oui. Et ils mettent nos Noirs aussi, enfin, pas de Noirs aussi.
Non, moins. Alors déjà, si ils disaient le mot noir, ça serait une avancée parce que Ils disent tous black, donc voilà. Mais c'est plutôt genre cherche black, cherche rebeu, no Asiat. C'est un peu le profil standard. Et tristement aussi, souvent nos capotes
quoi,
aussi. Donc voilà.
Oh,
oui, donc voilà, c'est un peu ça. C'est en gros, c'est cherche black, rebeu, no Asiat, no capotes. C'est un peu ça. Donc ça, c'est le
ça
cauchemar.
Ça donne envie de rencontrer ces personnes.
Ouais, c'est un peu le cauchemar gay, il ressemble à ça, en fait, sur Internet.
Le cauchemar gay, ouais. C'est génial. Et aux États-Unis, je sais pas s'il y a un terme en français, mais ils parlent des personnes qui sont rice queens.
Ah, d'accord.
Donc ça veut dire qu'ils sont strictement, ils cherchent strictement un partenaire asiatique. Donc c'est la fièvre jaune des personnes homosexuelles masculines. Hein, donc et ils ont aussi des potato queens. Donc c'est des personnes asiatiques qui ne veulent que des personnes blanches. C'est-à-dire
pourquoi potato?
Parce qu'apparemment les Américains blancs mangent beaucoup de patates.
Ah, c'est super compliqué là, le lexique entre le riz, les patates.
Ah ouais.
Et donc du coup, il y a vraiment une inversion, tu vois, de la désirabilité de la personne en fonction de son genre et de la race dans laquelle on les met.
Et si on revient sur la France, moi j'aimerais bien t'entendre sur ce qui s'est passé ces dernières années. Donc en 2012-2013, il y a eu ce débat majeur sur le mariage pour tous, qui a donné lieu à des réactions assez inattendues en termes d'ampleur. Et en même temps, toutes les parties prenantes du débat, en tout cas celles qui étaient visibles, semblaient être des personnes blanches. Comment toi tu as vécu ce débat, enfin je sais pas, à titre personnel ou même en termes de lecture politique, où effectivement on avait l'impression que à la fois les personnes qui étaient homosexuelles et à la fois les personnes qui étaient opposées, donc la manif pour tous, c'était que des blancs, que finalement la place des personnes non blanches, qu'elles soient noires, arabes ou asiatiques, n'était pas vraiment visible médiatiquement.
Je pense que c'est parce que comme honnêtement tu te dis t'es déjà noir, tu vas pas aller forcément sur ce terrain-là, mais je pense dans les deux sens, hein. Même du côté de ceux qui étaient contre. Moi, ce que j'entendais chez moi, c'est plutôt des avis contre, mais du genre, c'est leur pays, s'ils veulent le détruire, c'est leur problème.
Enfin, c'est
un peu plus ça, donc c'est l'idée que parce que je pense que, après aussi, comme je disais, les gens sont pas forcément hyper militants dans ma famille, donc l'idée, même le fait d'aimer les films de noirs, toute la culture noire, ça veut pas dire forcément que c'est des gens qui sortiraient dans la rue même pour revendiquer des choses pour les noirs. Donc il y a aussi quelque chose comme ça, et je pense que quand tu oses sortir dans la rue quand t'es noir, ça va être sur des choses où t'auras pas honte en fait d'être là vis-à-vis des autres noirs. Donc après, pour les homos noirs, je pense que peut-être que c'était le mariage, c'est pas une question prioritaire. Si tu sais que de toutes les façons te mettre en couple, ça va être compliqué parce qu'il faudra voir comment tu peux habiter avec quelqu'un sans que ta famille sache, etc. Mais pour beaucoup de gens, je pense que le mariage n'était pas une priorité. Mais en même temps, même si on allait boire des verres pendant cette époque-là, en même temps, on pouvait tous dire le mariage n'est pas une priorité, mais être tous énervés de voir la manif pour tous. C'est-à-dire, c'est très différent. Moi, je pense que j'ai vécu cette période-là pas comme un moment de mobilisation pour le mariage, mais plutôt un moment de mobilisation contre l'homophobie. Et c'est vrai que je suis allé personnellement à aucune manif, mais quand je voyais passer sur Facebook les événements d'Act Up qui appelaient, je trouvais ça bien parce qu'en fait, ça aurait fait quand même trop étrange d'imaginer que pendant tout ce déferlement, il y ait personne qui sorte pour dire que c'était pas normal que autant de Français sortent dans la rue avec autant de hargne pour un truc qui paraît aussi pas important. Et c'est ça qui est paradoxal. C'est que si le mariage est pas prioritaire pour les homos, pourquoi est-ce que des gens sont autant énervés et continuent encore à être en colère pour ça.
Il y a aussi eu, en 2018, une polémique sur la tête de cortège de la Gay Pride, la marche des fiertés, qui a été menée par un cortège non mixte constitué de personnes non blanches. Du coup, il y a eu des critiques. Et est-ce que toi...
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Comment t'as vécu ça?
Alors, en fait, j'ai vu, il y avait un reportage sur Vice, ou Click, je sais plus, mais j'ai vu le cortège, et c'est vrai que je m'étais dit, bon, c'était assez bien les slogans, tout ça. Non mixte ou pas, je sais pas si forcément il faut que ce soit non mixte, parce que, pour le coup, la marche des fiertés, c'est un peu plus, mais j'imagine que le but de la non mixité, c'était de se différencier des autres cortèges, ou qui prennent pas en compte la question raciale. Donc peut-être que s'ils n'avaient pas été non-mixtes, ils n'auraient pas eu l'attention médiatique. Donc peut-être qu'en fait, là-dessus, c'était bien joué d'être non-mixtes parce qu'il y avait un court reportage là-dessus. Je pense que c'est bien pour les autres générations. Moi, je ne sais pas si pour moi, par exemple, voir ça, ça a un effet particulier. Mais je pense que honnêtement, aujourd'hui en France, tu as un garçon noir de peut-être 13 ans et tu te poses des questions sur ta sexualité, peut-être même ton genre, etc. Voir ça comme image à la Gay Pride, ça peut peut-être te faire dire que t'as des options que peut-être des gens qui, comme moi, ont plus de 30 ans, n'ont pas. Et encore plus, ceux avant nous n'avaient pas du tout. Donc je pense que pour les plus jeunes, la visibilité, elle a peut-être un avantage pour les plus jeunes. Mais encore une fois, Paris, c'est une grande ville. Donc il y a des avantages à pouvoir choisir d'être visible ou pas. C'est pas possible partout de décider autant si t'es visible ou pas. Paris, c'est la ville, c'est à l'anonymat. Hein. Tu peux choisir plus.
Alors, on sait que tu t'intéresses beaucoup à l'histoire. Hein. On peut pas s'intéresser à cette question-là sans se saisir du prisme de l'histoire. Donc toi, t'es originaire d'une ancienne colonie. Et donc, avant la colonisation, les futures colonies avaient leurs propres normes sociales quant aux orientations et aux pratiques sexuelles, avec une codification spécifique. Et est-ce que tu penses que la colonisation a bouleversé des sociétés qui étaient pas forcément aussi intolérantes qu'on l'imagine? Et si oui, de quelle manière?
Alors, je sais par exemple qu'il y avait des sociétés, mais j'ai oublié les noms, où en gros on pouvait accepter des unions de même sexe, mais c'était soit par moment, soit c'était moins important. Mais en tout cas, il y avait des façons de voir la chose. Et peut-être qu'en disant de même sexe, je me trompe, parce que peut-être qu'eux, ils n'avaient pas une pensée genre...
binaire.
Voilà, une pensée binaire. En gros, c'est l'idée... En Occident, c'est plutôt l'idée que toute personne qui peut porter un enfant devient... le sexe féminin, etc. Mais je pense qu'il y a des sociétés où tu étais classé par l'âge, par rapport à ce genre de choses. Là, j'ai vu que l'Angola, ils viennent d'enlever une loi, les lois qui criminalisaient l'homosexualité. Donc, c'est un peu une décolonisation, un peu paradoxale aussi, parce que c'est dans le sens où ça se fait aujourd'hui, mais avec les catégories qu'on emploie ici, LGBT, etc. Donc, je pense que oui, la colonisation, elle a modifié dans plein d'aspects les structures des sociétés, et du coup la façon dont les gens se marient, même en hétéro, elle va être différente, la façon dont les gens vont envisager l'idéologie un peu plus du romantisme, comme cause des mariages plutôt que deux familles, ce genre de choses. Ça. Donc les hétérosexuels aussi, c'est modifié pour eux. Et puis les gens qui auraient eu des relations de même sexe, bah peut-être qu'aujourd'hui, ils voient l'identité homosexuelle comme intéressante pour eux ou pas. Donc je pense que ça a changé sur toute la sexualité, en fait, sur comment ça place dans la société. Et forcément, ça fait des conflits, mais peut-être qu'on focalise trop la dimension de ce conflit-là sur sa dimension sexuelle et en particulier homosexuelle, parce que je pense que ça... Bon, un exemple bête, j'ai vu qu'ils ont ouvert un Carrefour Market, le premier Carrefour Market au Sénégal. Je me dis, ben, par exemple, rien que ça change les modes de vie, ça change les manières de... Il y avait déjà des supermarchés occidentaux, mais là, c'est...
Il y avait déjà Auchan.
Il y avait déjà Auchan, mais je pense que quand tu amènes les... Si tu amènes les petites versions City Market, c'est encore d'autres façons, c'est pas les mêmes produits, c'est un autre rapport à la ville parce que c'est plus rapide. Je me dis rien que ça va te changer les consommations des gens, puis c'est un public particulier. Et du coup, je me dis, si on se focalise que sur la dimension, l'Occident amène les catégories sexuelles, homosexuelles, en fait, ça fait trop... Ça, injustement, ça met trop d'attention sur les minorités sexuelles. Et du coup, c'est pour ça que je pense que les gens en politique en France doivent être, comment dire... vigilant, c'est-à-dire tu peux dire une vérité sur le fait que l'Occident amène les catégories sexuelles, mais tu as une responsabilité politique sur comment tu l'amènes, parce qu'en fait, si tu oublies que l'Occident amène plein d'autres choses, du coup, on met la focalisation que sur ça, et en fait, c'est jouer le jeu de l'Occident aussi, de faire comme si c'était les homosexuels étaient forcément à part, alors qu'en fait, t'es dans la société, t'as les mêmes problématiques que tout le monde.
Donc, il y a aussi cette idée que les populations colonisées étaient déviantes,
oui.
Sexuellement, socialement d'une manière générale, mais sexuellement en particulier, et que du coup elles étaient dépravées, et que la morale chrétienne était venue, enfin c'est une mission civilisatrice en fait, l'apport de la chrétienté salvatrice du corps et de l'âme. Est-ce que tu penses que du coup la colonisation et cette installation de cette morale là a créé un recul par rapport aux pratiques sociales?
Oui, sur la question, j'ai moins d'exemples sur la question de la sexualité, mais par exemple, il y avait un article dans Le Monde l'an dernier qui parlait comment, bon, c'est un exemple particulier, mais ça invite à aller plus loin, comment au Ghana, en gros, il y avait des femmes qui étaient appelées, je crois, les reines-mères, et qu'en fait, les colons, quand ils sont arrivés, ils ont négocié le pouvoir seulement avec les chefs hommes, et comme ils venaient avec leur vision de les femmes sont pas dans la sphère politique, du coup, ils ont parler en fait du partage, bon, inégalitaire, c'était la colonisation, mais ils ont parlé du partage du pouvoir avec les chefs hommes, et du coup, à partir de ce moment-là, en fait, ils ont enlevé tout leur droit aux femmes qui avaient ce statut de reine-mère, et du coup, en fait, elles avaient déjà un rôle économique et social, et en fait, elles l'ont perdu avec la colonisation, et l'article parlait du fait que, en fait, là, maintenant, elles doivent se battre pour retrouver quelque chose qui était en fait acquis avant. Donc je pense que sur la sexualité, c'est pareil. C'était peut-être pas des gens qui s'appelaient homosexuels, mais il y avait des gens qui peut-être, s'ils voulaient pas le mariage traditionnel, peut-être qu'ils avaient un rôle. Je connais pas autant l'histoire de l'Inde, mais par exemple en Inde, les hijras, qui sont des transgenres, on peut dire, en fait, elles avaient un rôle dans la société, et on peut leur prêter des attributs. Et ça veut pas dire que tout était simple, mais ça veut dire qu'il y avait une place dans la façon dont cette société-là fonctionnait. Et après, ça a été perdu. Et c'est pas simple de le démêler aujourd'hui, parce qu'en plus, aujourd'hui, il y a les nouvelles identités. Donc les anciennes, les nouvelles. Donc oui, ça fait un gros désordre dans les sociétés, mais c'est un désordre généralisé quand tu es dans un pays colonisé, en vrai.
On a parlé des clichés sur les hommes noirs et sur les hommes asiatiques, et je trouve que on peut parler de l'homosexualité comme étant quelque chose importé par l'Occident en Afrique, comme si tu vois, les hommes africains, du fait de leur virilité intrinsèque, ils ne pouvaient pas être homosexuels, si tu veux. Alors que en Asie, moi, on me dit souvent, oui, mais chez vous en Asie les hommes sont quand même vachement plus efféminés et du coup l'homosexualité paraît plus naturelle. Et d'accord. Il me cite toujours l'idée, enfin l'exemple de la Thaïlande.
Okay.
Puisqu'il y a en Thaïlande notamment, on pense qu'il y aurait un nombre un peu supérieur aux autres contrées asiatiques de personnes trans. Alors on parle de lady boys, mais en thaïlandais ça se dit khatoy. Donc c'est des personnes, notamment dans le travail du sexe, hein, c'est souvent dans cette industrie-là qu'on les connaît. Et du coup, il y a vraiment cette idée que vous êtes plus ouvert sur cette idée d'homosexualité ou enfin c'est un petit peu
ouais, alors qu'on peut, c'est parfois ça que sur le même de la part d'Africains, hein, l'idée que l'Occident en fait d'une certaine manière a apporté des mœurs qui n'existaient pas et que en fait naturellement les Africains ne seraient tous hétérosexuels et que d'une certaine manière c'est l'Occident qui aurait, enfin ce qui est faux, mais qui aurait transformé enfin même dénaturé en fait quelque chose, qui est un ordre social qui était qui précédait la colonisation. Enfin je trouve que enfin c'est intéressant. Est-ce que tu penses que du coup ça a pas figé en réaction, tu vois, la colonisation, ça a figé une forme d'homophobie mais qui est aussi alimentée par une envie de se départir de l'influence occidentale et qui fabrique en fait une domination qui n'existe pas en fait.
Bah disons que ce qui est un peu étrange, c'est que le c'est un peu la morale catholique qui a été imposée, qui est reprise, mais j'ai déjà entendu bien sûr et lu des choses sur le sur l'homophobie comme résistance à l'Occident. Et je pense que oui et non, dans le sens où, en fait, aujourd'hui, c'est vrai qu'il va y avoir, par exemple, Obama qui va aller, je sais pas, au Sénégal et qui va dire faut dépénaliser. Les gens, ils sont pas dupes de voir que les États-Unis sont impérialistes et que ils interviennent que pour parler d'homosexualité, de droits de l'homme, etc. Donc, forcément, c'est vu comme hypocrite et les gens, ils veulent pas ça et c'est normal. Mais je me dis, c'est quand même pas rien le fait que les colons sont arrivés comme des hommes mariés, hétérosexuels, et personne n'est devenu hétérophobe pour ça. Donc, je pense que si on s'en tient à l'idée que, et je sais que c'est pas exactement ce que t'as dit, mais je veux dire, je vais volontairement loin, parce que ça peut être dit parfois. Si on dit que l'homophobie est une résistance, je pense que c'est un problème, et que c'est même limite insultant pour les Noirs, dans le sens où ça voudrait dire que ce seraient les Noirs qui seraient un peu plus, les Noirs ou les autres racisés, qui seraient plus homophobes quelque part. Parce qu'en fait, du coup, la manif pour tous, elle résiste à quoi? Par exemple, quand elle sort dans la rue. Je veux dire, quand par exemple, si des gens, par exemple, ils sont plus choqués par un impérialiste homosexuel qu'un impérialiste hétérosexuel, ça dit quelque chose du fait qu'il y a une homophobie qui existe aussi et qui est pas juste fondue dans on n'aime pas l'Occident. Parce que du coup, faudrait par exemple détester Obama parce qu'il faudrait être hétérophobe aussi avec Obama, parce que lui, il vient dire cette parole-là sur les homos, mais il est marié à une femme noire, il a deux enfants, et au début de son mandat, par exemple, il n'était pas trop pour le mariage et ce genre de choses, le mariage homo, je veux dire. Donc je pense qu'en fait, c'est dangereux, c'est tentant de dire ça, parce que ça résout le problème, surtout que... Mais ça je pense que c'est lié au racisme, et comme dans le racisme, on dit toujours que c'est les Noirs qui sont plus homophobes, que c'est les musulmans, alors là, encore plus, ouais. C'est les musulmans qui sont plus homophobes.
Les Noirs musulmans.
Alors, voilà, du coup, c'est... Mais je sais même pas s'ils savent qu'il y a des Noirs musulmans, donc non. C'est encore un autre problème. Mais du coup, oui, c'est vrai que si on dit tout le temps les musulmans, les Noirs, tout ça, sont homophobes, je comprends que la réaction en retour, ce soit de dire « oui, mais c'est pour telle raison ». Sauf que je suis pas sûr que s'attaquer aux idéologies racistes, c'est pas forcément les prendre à l'envers. C'est aussi des fois refuser les termes du débat. Et je pense qu'il faut l'homophobie comme résistance. Moi, je pense pas que c'est une idée très décolonisée de dire ça.
Alors, on va évoquer rapidement une notion que t'as effleurée, c'est la question de l'homonationalisme et de la manière dont, en fait, certaines démocraties occidentales instrumentalisent des questions liées aux libertés fondamentales, aux droits humains, pour, nourrir leur expansion. C'est-à-dire que ce que tu as dit est très intéressant. On va voir effectivement des puissances occidentales promouvoir les droits des femmes, promouvoir les droits des personnes homosexuelles, en disant que c'est très très important pour les pays, entre guillemets, qui sont des pays secondaires, les pays du Sud, et en même temps, on ne les voit jamais défendre les droits économiques de ces personnes ou la liberté de circulation, alors qu'elle est garantie par la Déclaration universelle des droits humains. Donc, c'est comme s'il y avait un choix dans les libertés qui semblait prioritaire et qu'on disait, on utilisait cet argument pour dire que ces pays sont arriérés, et en même temps, on va nier les droits, tout simplement, de circuler, d'accéder à d'autres pays, de ces mêmes personnes. Donc, Est-ce que tu penses que c'est un outil de l'impérialisme occidental?
Oui.
Et que c'est quelque part, il y a une forme d'hypocrisie aussi, parce que, est-ce que tu penses qu'il y a une véritable, un véritable intérêt pour les droits des femmes ou les droits des homosexuels?
Non, je pense pas, parce que si tu bombardes un pays, les bombes, elles tombent sur les hommes et les femmes, et les homos et les hétéros. Et si tu mets des sanctions économiques sur un pays, les sanctions, c'est pour tout le monde. Donc, dire par exemple, je sais pas moi quelle dernière polémique qu'il y a eu, mais quand tu dis par exemple, tel pays a la peine de mort pour les homos, donc on met des sanctions économiques, bah, les homos aussi, ils vont pas manger, donc... Du coup, c'est pas très. Enfin, c'est pas que c'est pas logique. Disons que la logique, elle est pas.
C'est pas crédible sur ce.
Voilà,
en fait.
C'est que c'est pas crédible. C'est la logique de. On fait ça pour les homos, c'est pas crédible. Mais c'est une logique de. Tu disais d'expansion. C'est une logique d'expansion. Mais après, de toute façon, enfin, quand on voit comment les Américains n'ont pas de mal à être amis avec des Saoudiens quand ça intéresse, ils soutiennent des coups d'État quand ils sont d'accord avec les personnes.
Les Français non plus n'ont pas de mal à être amis avec les Saoudiens.
Oui, les Français aussi. C'est vrai que les Français aussi. Donc, c'est vrai que la France là-dessus, on connaît peut-être. En tout cas, peut-être moi, je connais un peu moins. Mais je me dis quand je vois les États-Unis qui se. Quand on voit quels sont leurs alliés, on voit bien que c'est pas la question des droits de l'homme qui vont être la cause ou pas de faire l'alliance, c'est plutôt quels sont les intérêts économiques à tel moment. Et donc, c'est une question parmi d'autres, l'homophobie, et je pense que c'est important de la ramener dans tout le reste, parce que sinon, ça donne l'impression que l'Occident est vraiment pro-gay et a vraiment envie d'imposer ça partout, alors qu'en fait, il y a un intérêt qui est avant tout économique.
Et comment est-ce qu'on fait quand, du coup, on est racisé et queer, homme ou femme, pour pouvoir faire la part des choses entre, avec cette... dichotomie de la modernité et l'anticapitalisme, du parce qu'il y a toujours une opposition, tu vois. Moi, je vois même en Asie, Taïwan qui a récemment dépénalisé l'homosexualité et qui du coup a été encensé par l'Occident pour ça, c'est ce qui est bien. Et du coup, la contradiction avec le continent chinois qui est encore très strict sur ces questions-là. Et on sent le jeu, tu vois, de l'Occident, de dire ah, regardez les Taïwanais, comment ils sont progressistes et comment ils sont proches de nous, en fait. Et comment la Chine, c'est une dictature et que vraiment, ces Chinois, voilà. Il faut les mater, quoi. Et comment, en tant que personne ici, liée à ces questions-là, on peut faire la part des choses et se dire, comment on peut se réaliser en paix avec ton héritage et son appartenance, tu vois, sociale, quoi. Enfin.
C'est vrai que c'est compliqué parce que c'est des identités qui sont un peu en clash. Mais moi, je pense que... Moi, j'embête souvent quand, par exemple, j'ai des discussions avec des femmes noires qui sont pas du tout d'accord avec la question homosexuelle et du coup, je les embête, je leur dis, bah, t'as 30 ans, pourquoi t'as pas des enfants? Qu'est-ce qui est plus occidentalisé que le noir queer ou la femme qui a pas d'enfants? Parce que normalement, tu sais très bien qu'à cet âge-là, on peut se renvoyer des trucs. Par exemple, un homme... hétérosexuel, je peux embêter en disant mais t'es pas marié, tes responsabilités ancestrales envers la communauté, la famille. En fait, il faut trouver aussi chez les hétéros noirs la preuve que eux-mêmes ils sont modifiés par les nouvelles. Et ça, c'est au niveau, je parle de la vie de tous les jours. Après, par rapport à ta question, tu parlais de Taïwan, donc ça c'est une grande échelle. Je me dis pourquoi est-ce que pour rester sur les États-Unis encore, quand Obama va être pro-homo, on voit la dimension impérialiste et on se dit que c'est parce qu'il est impérialiste. Et quand Trump est homophobe, on voit pas la dimension aussi impérialiste. C'est-à-dire qu'on n'a qu'à voir les exemples occidentaux même de l'homophobie, voir les exemples, les quelques plus rares exemples, mais peut-être pas en termes de loi, mais aussi de voir comment il y a des endroits où, en fait, même sans avoir des lois pro-homo, mais qu'il y a une existence queer qui existe et qui est peut-être plus discrète, mais où ça fonctionne. En fait, et je pense que la grande échelle, parce que moi je parle à mon niveau, donc là c'est pas en termes militants, c'est en termes comment je réponds aux gens qui m'embêtent là-dessus. En termes militants, je pense que les gens qui font de la politique, il leur faut du courage politique d'assumer que même si tu veux rester anticapitaliste aux yeux des gens, en gros pas faire comme les communistes des années 70 qui, au nom de plaire à ce qu'ils appellent le peuple, qu'ils fantasment comme forcément homophobes, avoir des discours tendancieux, ne pas prendre position clairement sur l'homophobie parce qu'en fait, mon Dieu, je vais perdre ma base, etc. Moi, je pense qu'il y a, en France, il y a personne qui a, en termes politiques, je parle pas de, dans les journaux, les médias, mais en termes politiques, il y a personne dans l'anticapitalisme ou l'antiracisme qui a du courage politique de dire, en fait, on a compris la douille occidentale, mais en fait, nous, on va casser ce jeu qu'ils ont fait pour montrer que en fait il faut refuser les termes de la question et faire autrement. Je pense que la plupart des gens, soit ils sont très dans l'acceptation de la vision occidentalisée parce qu'ils veulent pas être vus comme des arriérés, ou soit au nom d'une vision de hyper populiste, on veut rester auprès du peuple qu'ils fantasment comme toujours plus homophobes. Ils vont être tendancieux dans leur façon de, ils vont pas vouloir dire, assumer clairement, ben oui, ça c'est impérialiste, mais pourquoi vous vous intéressez plus à ça quand c'est les homos et que, je veux dire, parler à, dans nos propres camps. Donc, moi, je pense que le problème, c'est qu'il y a personne qui a ce courage politique-là. Alors que, par exemple, aux États-Unis, il y a des gens qui ont déjà un peu fait ça, mais qui peuvent se le permettre parce qu'ils sont connus, comme Angela Davis, qui va lui dire qu'elle est pas anticapitaliste ou antiraciste parce qu'elle soutient, voilà. Et je pense qu'au bout d'un moment, tu peux pas demander à des gens qui vivent en Occident de pas avoir des marques d'occidentalisation. Ou alors ce serait tout le monde, ce serait pas que les gays en fait qui devraient, voilà.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci à
Gabi.
Vous.
Nous arrivons à la fin de ce numéro de Kif Taras qui a questionné le fait d'être à la fois racisé et LGBTQIA. Merci à Gabi d'avoir partagé son analyse et son expérience.
N'hésitez pas à nous faire part de vos opinions sur l'échange que nous venons de mener. Si vous êtes d'accord, si vous êtes choqué par le fait qu'on parle de pratiques culturelles qui ont été modifiées par la colonisation, et si vous avez l'impression qu'on a trop essentialisé, ou au contraire si ça vous fait plaisir d'entendre enfin quelqu'un de non-blanc parler du fait d'être queer, n'hésitez pas à nous le dire. Vous pouvez nous écrire à kiftaras@binge.audio, binge B-I-N-G-E, ou nous contacter sur les réseaux sociaux en suivant le @kiftaras sur Twitter, ou sinon le hashtag kiftaras sur Facebook ou sur Instagram.
Kiftaras est un podcast de Binge Audio. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Merci Rokaya.
Merci Grace.
Binge.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Marc Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Marc.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.